Chapitre 42. À vrai dire, je ne crois pas qu'il eût fait plus que de regarder cette porte large ouverte. Il devait être intrigué de ce qu'il avait vu, car plus d'une fois, il interrompit son récit pour s'écrier « Il a failli me glisser entre les doigts. Je ne pouvais pas arriver à le comprendre. Qui était-ce donc que cet individu-là ? » Et après avoir fixé sur moi des yeux égarés, il reprenait son récit avec un ricanement de jubilation. Pour moi, la conversation de ces deux hommes, d'une berge à l'autre, m'apparaît comme un des duels les plus féroces qu'ait jamais contemplé la destinée, avec sa froide connaissance de leur issue. Non, Brown ne retourna pas, sans dessus-dessous, l'âme de Jim. Mais je crois bien pouvoir affirmer qu'il fit vider, jusqu'à la lie, la coupe de l'amertume à cet esprit si éloigné de son atteinte. Voilà donc les émissaires que lui envoyait, dans sa retraite, le monde auquel il avait renoncé. Ces blancs, sortis de ce là-bas, où il ne se jugeait plus digne de vivre, c'était tout ce qui venait à lui, comme une menace, un ébranlement, un danger pour son œuvre. C'est ce sentiment de tristesse à demi irrité, à demi résigné, qui devait percer sous les rares paroles de Jim, et qui gêna si fort Brown pour comprendre son caractère. Certains grands hommes doivent la meilleure part de leur grandeur au coup d'œil qui révèle, chez ceux dont ils se proposent de faire leurs ouvriers, l'exacte qualité de force nécessaire à leur œuvre. Et Brown, comme s'il eût été vraiment grand, possédait un talent satanique pour trouver chez ses victimes la meilleure force ou le point faible. Il m'avoua que Jim n'était pas de ces gens que l'on subjugue en s'abaissant devant eux. Et il eut soin, en conséquence, de se présenter en homme qui affronte sans terreur, malchance, opprobre et désastre. Ce n'était pas un grand crime, expliqua-t-il, que d'avoir transporté quelques fusils en contrebande. Et quant à son expédition à Patousan, avait-on le droit de dire qu'il n'y fut pas venu pour demander humblement des vivres? Les maudits indigènes lui étaient tombés dessus des deux rives, sans même se donner la peine de savoir ce qu'ils voulaient. Il faisait montre, en disant cela, d'une belle impudence, car en fait, l'énergie de Dane Waris avait conjuré les pires calamités. Brown m'avoua nettement qu'en se rendant compte de l'importance de la ville, il avait décidé, dans son fort intérieur, de mettre le feu à droite et à gauche dès qu'il aurait pris pied sur la rive, et de commencer par fusiller à la ronde tout ce qu'il apercevait de vivant pour affoler et épouvanter la population. Telle était la disproportion des forces en présence qu'il voyait là, m'expliquait-il dans une quinte de toux, la seule ombre de chance d'atteindre son but. Mais il n'en avait rien dit à Jim. Quant aux rigueurs et aux privations qu'il avait endurées, elles étaient bien réelles. Il suffisait pour s'en convaincre de regarder sa troupe. À un coup de sifflet aigu sorti de ses lèvres, tous ses hommes se dressèrent en rang sur les troncs d'arbres pour que Jim pût bien les voir. Pour l'indigène tué, on l'avait tué, c'est bien certain. Mais n'était-ce pas là coup de guerre sanglante, au grand jour? Le bonhomme au moins avait été tué proprement, d'une balle en pleine poitrine, à l'inverse de leur pauvre diable de camarade, couché maintenant sous l'eau, et dont ils avaient dû entendre l'agonie pendant 6 heures, avec ses boyaux percés par les chevrotines. En tout cas, ce n'était jamais qu'une vie pour une vie. Il disait tout cela avec la lassitude et l'insouciance d'un homme si cruellement et si constamment poursuivi par la mauvaise fortune qu'il ne se soucie guère de ce qui peut lui arriver. Lorsqu'il demanda à Jim, avec une sorte de franchise brusque et désespérée, s'il ne comprenait pas lui-même, voyant sincèrement, qu'au moment de sauver sa vie dans la nuit, on ne se préoccupe guère de savoir combien d'autres périssent, 3, 30 ou 300, on eût dit que c'était un démon qui venait de lui souffler cette question à l'oreille. « Je le vis tressauter, » me disait Brown d'un air triomphant, « et il n'essaya plus de le faire à la vertu avec moi. » Immobile à sa place, et le visage sombre comme un ciel d'orage, il regardait à ses pieds, pas de mon côté. Brown demanda à Jim s'il n'avait rien de louche dans sa vie, pour opposer une telle rigueur à un homme qui usait des moyens à sa portée pour tenter de sortir d'un vilain trou. Et ainsi de suite. Dans la rue du colloque passait une allusion subtile à leur sang commun, une affirmation de communes expériences, une odieuse insinuation de crimes communs, de souvenirs cachés qui liaient leurs esprits et leurs cœurs. Brown finit par se jeter à plat ventre sur le sol en surveillant Jim du coin de l'œil. Jim réfléchissait en tapant sa jambe à coups de houssine. Les maisons voisines étaient silencieuses comme si une épidémie y eût éteint le dernier souffle de vie. Mais de l'intérieur, bien des yeux se tournaient vers les deux vivants que séparait le ruisseau avec la chaloupe blanche échouée et le cadavre du mort à demi enfoui dans la vase. Sur le fleuve, les pirogues allaient et venaient à nouveau, car Patouzan retrouvait sa foi dans la stabilité des institutions humaines depuis le retour de son seigneur blanc. La rive droite, les terrasses des maisons, les radeaux amarrés à la berge, les toits même des huttes de bain étaient couverts de gens qui, bien au-delà de la portée de l'ouïe et presque de la vue, écarquillaient leurs yeux sur la colline dressée derrière le palais du Raja. Dans le vaste anneau irrégulier de forêt, coupé en deux par la traînée du fleuve, le silence planait. « Voulez-vous promettre de quitter la côte ?» demanda Jim. Brown leva et laissa retomber ses mains, comme pour dire qu'il abandonnait la partie, qu'il acceptait l'inévitable. « Et vous rendrez vos armes ?» poursuivit Jim. Brown se redressa et le regarda d'un air farouche. « Rendre nos armes ? Rendre nos armes ? Pas avant que vous veniez les prendre dans nos mains raidies. Vous croyez donc que la frousse me fait perdre la tête ? Oh non, ces armes, c'est tout ce que je possède, avec les loques que j'ai sur le dos, et quelques autres fusils encore à bord. Je compte vendre le tout à Madagascar, si je puis jamais y arriver, en mendiant d'ici là auprès de tous les navires que je rencontrerai. » Jim ne répondit rien, mais jetant à la fin la badine qu'il tenait à la main, il murmura comme s'il se fût parlé à lui-même. « Je ne sais si j'aurai le pouvoir. »« Vous ne savez pas, et vous vouliez tout à l'heure que je rendisse mes armes ?»« Ah, voilà qui est fort !» s'écria Brown. « Supposez qu'on vous dise une chose et qu'on en fasse une autre. » Il se calma d'un effort. « Le pouvoir, je pense bien que vous l'avez, sinon à quoi bon tout ce bavardage ? Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pour passer le temps ?»« Très bien, » fit tout à coup Jim, en relevant la tête après un long silence. « On vous laissera le passage libre, ou l'on vous livrera un combat loyal. » Et pivotant sur les talons, il s'éloigna. Brown se leva aussitôt, mais n'escalada pas la colline avant d'avoir vu Jim disparaître entre les premières maisons. Il ne le revit jamais. À mi-côte, il rencontra Cornelius qui descendait lourdement, la tête dans les épaules. « Pourquoi ne l'avez-vous pas tué ? » demanda le métis avec un aigre accent de colère. « Parce que j'avais mieux à faire, » répondit Brown, en souriant ironiquement. « Jamais, jamais !» protesta violemment Cornelius. « C'est impossible. J'ai vécu tant d'années ici. » Brown le regarda curieusement. Il y avait de multiples aspects dans la vie de ce pays soulevé contre lui, et bien des mystères qu'il ne pourrait jamais élucider. Cornelius se dirigeait d'un air morne vers le fleuve. Il quittait ses nouveaux amis. Il venait de subir encore un désappointement, et sa résignation boudeuse semblait ratatiner davantage sa vieille petite figure jaune. Il descendait la colline en jetant à droite et à gauche des regards obliques, et sans renoncer un instant à son idée fixe. À partir de ce moment, les événements se précipitent, coulant sans interruption du cœur des hommes comme d'une source sombre, et nous y voyons Jim par les yeux de Tambitam. Ceux de la jeune femme étaient fixés sur lui aussi, mais les vies de ces deux êtres sont trop intimement confondues. Il faut compter avec sa passion, sa stupeur, sa colère, et par-dessus tout avec sa terreur et son implacable amour. Chez le fidèle serviteur, tout aussi incompréhensif d'ailleurs que les autres, c'est la fidélité seule qui entre en jeu. Une fidélité si parfaite et une foi si profonde dans son maître que sa stupeur même se réduit à une acceptation attristée d'une mystérieuse défaite. Il n'a Dieu que pour un seul être, et à travers toutes les incertitudes de son accablement, il garde son attitude de protecteur soumis et vigilant. Son maître revint de l'entretien avec le blanc en marchant lentement dans la rue vers la barricade. Tout le monde fut heureux de le voir de retour, car pendant le colloque, ce qui épouvantait, ce n'était pas seulement l'idée de le voir tué, mais de ce qui pourrait survenir après. Jim entra dans une maison où s'était retiré le vieux Doramine, et y resta en un long tête-à-tête avec le chef de bugie. Ils discutèrent évidemment la ligne de conduite nécessaire, mais personne n'assistait à leur entretien. Seul Tamitam, qui se tenait aussi près qu'il le pouvait de la porte, entendit son maître déclarer « Oui, je leur ferai savoir à tous que tel est mon avis. Mais j'ai voulu vous parler d'abord à vous, ô Doramine, et à vous seul, car vous connaissez, aussi bien que je connais les vôtres, mon cœur et son plus grand désir. Et vous savez aussi que je n'ai nulle pensée qui ne soit pour le bien de tous. » Alors, soulevant la toile de l'entrée, Jim sortit de la maison, et Tamitam aperçut, dans la pièce, Doramine immobile sur son siège, les mains aux genoux et les yeux baissés sur le sol. Après quoi il suivit son maître au fort, où l'on avait convoqué les chefs bugies et les notables de Patousan. Tamitam souhaitait une bataille. « Ce n'eût été que la prise d'une autre colline, » me disait-il avec regret. Pourtant, plus d'un des habitants de la ville espérait que la vue de tant de braves, prêts au combat, inciterait à la retraite les rapaces étrangers. Leur départ serait un bonheur. Depuis que le coup de canon tiré du fort avant le jour et le roulement du gros tambour avaient annoncé l'arrivée de Jim, la terreur suspendue sur Patousan s'était écartée, dispersée comme une vague sur un rocher, en laissant seulement une écume bouillonnante d'agitation, de curiosité et de spéculation sans fin. La moitié des habitants, expulsés de leur demeure pour les dispositions de la défense, vivaient dans la rue sur la rive gauche du fleuve, se pressaient autour des berges et s'attendaient d'un moment à l'autre à voir sur la rive menacée leur maison en proie aux flammes. Le désir général était de sentir l'affaire promptement réglée. Des vivres avaient été distribués aux réfugiés par les soins de bijoux. Nul n'avait l'idée de ce qu'allait faire le seigneur blanc. D'aucuns affirmaient la situation plus inquiétante qu'au temps du shérif Ali. À cette époque-là, bien des gens ne se souciaient de rien, tandis que maintenant, ils avaient tous quelque chose à perdre. On surveillait avec intérêt le va-et-vient des canaux entre les deux parties de la ville. Deux des pirogues de guerre bugies étaient ancrées au milieu du courant pour protéger le fleuve, et un filet de fumée montait de leur avant. Les hommes cuisaient leur repas de midi, lorsque Jim traversa l'eau, après ses entretiens avec Brown et Doramine, et regagna le fort par la porte du fleuve. On se pressait si bien autour de lui, dans la cour, qu'il eut peine à se frayer un chemin jusqu'à son logis. On ne l'avait pas encore vu, car au moment de son arrivée nocturne, il n'avait fait qu'échanger quelques mots avec Bijou, descendu à cet effet au débarcadère, et était tout de suite allé rejoindre sur l'autre rive les chefs et les guerriers. On l'acclamait. Une vieille souleva une hilarité générale en se précipitant comme une folle au devant du maître et en lui enjoignant d'une voix grondeuse de veiller à ce que ses deux fils, qui étaient avec Doramine, ne fussent pas mis à mal par les bandits. Plusieurs des assistants s'efforçaient de la repousser, mais elle se débattait en criant « Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que cela signifie ?» Voilà des rires déplacés. Ne sont-ce pas des brigands cruels et sanguinaires, avides de carnage ? Laissez-la, ordonna Jim. Et dans le silence brusquement établi, il poursuivit, lentement, tout le monde sera en sécurité. Il pénétra dans sa demeure, avant que se fussent éteints le profond soupir et les murmures véhéments de satisfaction soulevés par ses paroles. Il est certain qu'il était décidé à laisser à Brown le libre accès à la mer. Sa destinée, révoltée, lui forçait la main. Pour la première fois, il avait dû affirmer sa volonté en face d'une opposition déclarée. Il y eut de grandes discussions, et mon maître resta d'abord silencieux, m'expliquait Tamitam. La nuit vint, et j'allumai les chandelles sur la longue table. Les chefs étaient assis des deux côtés, et la dame restait debout à la droite de mon maître. Lorsque Jim prit la parole, l'inhabituelle difficulté parut avoir pour seul effet d'affermir plus immuablement sa décision. Les Blancs attendaient sa réponse sur la colline. Leur chef lui avait parlé dans sa propre langue et exposé bien des choses difficiles à expliquer dans un autre langage. c'étaient des égarés, dont la souffrance avait fermé les yeux à la notion du bien et du mal. Il est vrai que des vies avaient été déjà perdues, mais était-ce une raison pour en sacrifier davantage? Jim affirma à ses auditeurs, chef assemblée du peuple, que leur bien était son bien, leur perte ses pertes, leur deuil son deuil. Il regarda à la ronde les visages graves et attentifs, et les pria de se souvenir qu'ils avaient combattu et travaillé côte à côte. On connaissait son courage. Un murmure l'interrompit. Et l'on savait qu'il ne les avait jamais trompés. Ils avaient vécu bien des années ensemble. Il aimait d'un grand amour le pays et ceux qui l'habitaient. Il était prêt à répondre sur sa tête de tout mal qui pourrait arriver si l'on permettait aux blancs barbus de se retirer. C'étaient des malfaiteurs, mais leur destinée avait été cruelle. Leur avait-il jamais donné un mauvais conseil? Et ses paroles avaient-elles jamais causé au peuple la moindre souffrance? Mieux valait, à son avis, laisser partir vivants ces blancs et ceux qui voudraient les suivre. Ce serait une médiocre faveur. Moi, dont vous avez toujours connu, dont vous avez éprouvé la loyauté, je vous prie de les laisser partir. » Il se tourna vers Doramin. Le vieux Nakoda ne fit pas un mouvement. « Alors, reprit Jim, appelez mon ami Dane Waris, votre fils, car dans cette expédition-là, ce n'est pas moi qui marcherai à votre tête. » Chapitre 43. Tam Tam restait atterré derrière le siège de son maître, dont la déclaration produisait une immense sensation. « Laissez-les râler, car c'est la plus sage façon de faire, à mon sentiment, et je ne vous ai jamais trompé, » insista Jim. Il y eut un silence. Dans l'ombre de la cour, on entendait les murmures étouffés et le piétinement d'une foule. Doramin leva sa lourde tête pour dire qu'il n'y avait pas à songer à lire dans les cœurs plus qu'à toucher le ciel avec la main, mais qu'il consentait. Les autres opinèrent tour à tour. « Mieux vaut qu'il s'en aille, » disaient certains. Mais la plupart se contentèrent de dire qu'il s'en rapportait à Tuan Jim. C'est dans cette simple forme d'assentiment à son désir que gît le nœud de la situation. C'est leur foi dans sa loyauté et l'hommage à sa droiture qui faisait de lui, à ses propres yeux, l'égal des hommes impeccables qui n'ont jamais quitté leur place dans le rang. La parole de Stein, romanesque, romanesque, semble planer sur le pays qui ne le rendra plus jamais à un monde indifférent à son échec comme à ses mérites, et sur cette ardente et jalouse tendresse qui, dans la stupeur d'une affreuse douleur et d'une éternelle séparation, lui refuse l'aumône même des larmes. Du moment où la simple loyauté des trois dernières années de sa vie remporte la victoire sur l'ignorance, la terreur et la colère des hommes, il ne m'apparaît plus tel que je l'ai vu à la dernière minute, point blanc absorbant le suprême reflet de lumière tombé sur une côte noire et une mer assombrie, mais plus grand, plus digne de compassion, dans cette solitude de son âme, demeuré, pour celle même qu'il aimait le mieux, un cruel et insoluble mystère. Il est évident qu'il ne se méfiait pas de Brown. Il n'avait pas de raison de suspecter une histoire dont la vérité paraissait attestée par une rude franchise, par une sorte de sincérité virile dans l'acceptation de la moralité et des conséquences de ses actes. Mais Jim ne connaissait pas l'égoïsme presque inconcevable d'un homme qui, à voir ses desseins déjoués et contrecarrer ses projets, s'affolait de la rage indignée et furieuse d'un autocrate contrarié. S'il ne se méfiait pas de Brown, Jim gardait pourtant la crainte d'un malentendu quelconque, d'un incident qui pouvait survenir et se terminer par une collision sanglante. Aussi, à peine retiré les chefs malais, pria-t-il Bijou de lui donner à manger, car il allait quitter le fort pour se mettre en ville à la tête des combattants. Comme la jeune femme se récriait, en lui rappelant sa fatigue, il déclara que si quelque chose arrivait, il ne se le pardonnerait jamais. « Je réponds de toutes les existences ici, » rappela-t-il. Il était un peu sombre. Bijou lui servit son repas de ses propres mains, dans le service de table offert par Stein, en prenant à Tam Tam les plats et les assiettes. Jim se dérida bientôt et dit à sa compagne qu'il allait lui remettre, pour une nuit encore, le commandement du fort. Pas de sommeil pour nous, ma fille, tant que notre peuple est en danger, conclut-il. Après quoi, il affirma, en souriant, qu'elle était le meilleur homme de tous ces gens-là. Si Dame Waris et toi aviez fait ce que vous souhaitiez, aucun de ces pauvres diables ne serait plus en vie aujourd'hui. Sont-ils bien méchants ? Interrogea-t-elle en se penchant sur la chaise du jeune homme. Des hommes peuvent faire parfois le mal sans être beaucoup plus méchants que d'autres, répondit-il avec une certaine hésitation. Tamitam suivit son maître jusqu'à l'embarcadère, en dehors du fort. La nuit était claire, mais sans lune, et le milieu du fleuve restait sombre, tandis que près des berges, l'eau reflétait de nombreux feux, comme par une nuit de Ramadan, me disait le Malais. Des pirogues armées passaient silencieusement dans la bande d'ombre, où, immobiles à l'ancre, flottaient avec un bruit de clapotis sonore. Tamitam eut beaucoup à pagayer et beaucoup à marcher sur les talons de son maître. Ils arpentèrent la rue illuminée par les feux et s'enfoncèrent jusqu'aux confins de la ville, où de petits groupes d'hommes montaient la garde dans les champs. Tuan Jim donnait des ordres aussitôt exécutés. Ils passèrent, pour finir, au palais du Raja, occupé cette nuit-là par un détachement des serviteurs de Jim. Le vieux Raja avait fui le matin à la première heure avec la plupart de ses femmes et s'était réfugié près d'un village de la brousse, dans une petite maison qu'il possédait sur un affluent du fleuve. Resté en arrière, Cassim avait assisté au conseil pour expliquer, avec son air d'activité diligente, sa diplomatie de la veille. On lui battait froid, mais il n'en conservait pas moins une vivacité paisible et souriante, et fit montre d'un grand enthousiasme lorsque Jim lui déclara sèchement qu'il allait faire occuper, ce soir-là, la redoute du Raja par des hommes à lui. À l'issue du conseil, il alla de l'un des chefs à l'autre, en proclamant bien haut sa gratitude pour cette protection accordée, en son absence, au domaine de son maître le Raja. Vers 10 heures, les hommes de Jim vinrent occuper l'enceinte qui commandait l'embouchure du ruisseau. Jim comptait rester là jusqu'au départ de Brown. Un petit feu fut allumé en dehors de la palissade, sur la pointe plate et gazonnée, où Tamitam disposa un pliant pour son maître. Jim lui conseilla d'essayer de dormir. Tamitam alla chercher une natte et s'allongea à l'écart, mais il ne pouvait fermer l'œil, bien qu'il sût qu'il lui restait un long trajet à faire avant la fin de la nuit. Son maître marchait de long en large devant le feu, la tête basse et les mains derrière le dos. Son visage était triste. Chaque fois qu'il s'approchait, Tamitam feignait de dormir pour que Jim ne s'aperçût pas qu'il le regardait. Le jeune homme finit par s'arrêter et, abaissant les yeux sur son serviteur, dit doucement « Il est temps ». Tamitam se leva aussitôt et fit ses préparatifs. Sa mission consistait à descendre le fleuve 1 heure ou plus avant la chaloupe de Brown et à transmettre à Dame Waris l'ordre formel et péremptoire de laisser passer les Blancs sans les inquiéter. Jim ne voulait charger personne que lui de ce rôle. Avant de partir, Tamitam demanda un gage de sa mission, simple formalité, car sa situation auprès de Jim le faisait connaître de tous. « Le message est d'importance, expliquait-il. Et ce sont tes propres paroles, Tuan, que je dois rapporter. » Son maître fouilla dans une de ses poches, puis dans l'autre, et finit par retirer de son doigt l'anneau d'argent de Stein qu'il portait presque toujours. Il le donna à Tamitam. Quand le Malais partit, le camp de Brown était encore sombre sur la colline, à l'exception d'une petite lueur qui brillait entre les branches d'un des arbres abattus par les Blancs. La veille au soir, Brown avait reçu de Jim une feuille de papier pliée avec ces mots « Vous aurez la route libre. Partez dès que la prochaine marée portera votre chaloupe. Que vos hommes prennent garde, les fourrés des deux rives du ruisseau et la redoute à son embouchure sont pleins de guerriers bien armés. Vous n'auriez aucune espèce de chance, mais je ne crois pas que vous cherchiez un massacre. » Brown lut ce mot, déchira la feuille en petits morceaux, et se tournant vers Cornelius qu'il avait apporté, fit railleusement « Adieu, mon excellent ami !» Cornelius, entré dans le fort, avait passé son après-midi à rôder autour de la maison de Jim. Jim l'avait choisi pour porter son billet, parce que, sachant l'anglais et connu de Brown, il ne risquait pas, comme un indigène, en approchant au crépuscule, un coup de feu lâché par un des bandits pris de panique. Cornelius ne se retira point après avoir remis le billet. Brown était assis devant un petit feu. Tous ses compagnons étaient couchés. « Je pourrais vous dire quelque chose qui vous intéresserait, » grommela Cornelius d'un air maussade. Brown ne fit pas attention à ses paroles. « Vous ne l'avez pas tué, » reprit l'autre. « Et qui avez-vous gagné ?»« Vous auriez pu obtenir de l'argent du Raja, sans compter le sac de toutes les maisons bugies. Et maintenant, vous n'avez rien du tout. » « Je vous conseille de filer, » gronda Brown, sans même le regarder. Mais Cornelius se laissa tomber à côté de lui et se mit à chuchoter avec volubilité, en lui touchant de temps en temps le coude. Ses paroles firent redresser Brown, qui lâcha un juron. Cornelius venait de lui révéler la présence de Dainwaris avec une troupe en armes en aval de la rivière. Au premier moment, Brown se crut vendu et trahi. Mais un moment de réflexion suffit à le convaincre qu'il ne pouvait s'agir de trahison. Il ne dit rien, et un peu après, Cornelius avança, d'un air d'indifférence profonde, qu'il y avait en dehors du bras principal un autre chenal bien connu de lui. « C'est une bonne chose à savoir, » approuva Brown en dressant l'oreille. Cependant que Cornelius se mettait à lui raconter ce qui s'était passé en ville et lui rapportait tout ce qui s'était dit au conseil. Il bavardait à mi-voix, d'un ton monotone, comme on chuchote parmi les dormeurs que l'on craint d'éveiller. « Il pense m'avoir rendu inoffensif, hein, vraiment ?» gronda très bas Brown. « Oui, c'est un imbécile, un petit enfant. Il est venu ici pour me voler, » pleurnichait Cornelius, « et il a capté la confiance générale. Mais s'il survenait un fait qui empêcha à l'avenir de croire en lui, où serait-il ? « Ce Dainwaris qui vous attend là-bas, capitaine, c'est le premier homme qui vous est repoussé ici, lors de votre arrivée. » Brown fit remarquer avec nonchalance que mieux valait éviter de le voir, et Cornelius affirma, toujours sur le même ton détaché et rêveur, qu'il connaissait un bras perdu, assez large pour laisser passer derrière le camp bugie la chaloupe des plans. « Il faudra vous tenir très tranquille, » ajouta-t-il, comme s'il eût obéi à une arrière-pensée. Car à cet endroit, on passe tout près du camp, tout près. Ils sont campés sur le rivage, avec leurs bateaux tirés sur la berge. « Oh, nous savons être silencieux comme des ombres, ne craignez rien, » fit Brown. Cornelius stipula que s'il devait servir de pilote, son propre canot serait pris en remorque. « Il faudra que je remonte vivement, » expliqua-t-il. 2 heures avant l'aube, les guetteurs postés aux abords de la redoute annoncèrent que les voleurs blancs descendaient vers leur chaloupe. En un clin d'œil, tous les hommes armés étaient sur le qui-vive, d'un bout à l'autre de Patousan. Les rives du fleuve restaient pourtant plongées dans un tel silence que, sans les feux qui s'élevaient parfois en brusques flambées sombres, la ville eût paru endormie comme en temps de paix. Un brouillard dense, suspendu sur l'eau, répandait une sorte d'illusoire lumière grise qui ne laissait rien voir. Lorsque la chaloupe sortit du ruisseau pour entrer dans le fleuve, Jim se tenait debout, sur la pointe basse de terre, devant l'enceinte du Raja, au point même où il avait, pour la première fois, mis le pied sur le rivage du Patousan. Mobile dans la grisaille, solitaire, très massif, et déjouant pourtant sans cesse les regards, une ombre se dessinait. Un murmure assourdi en sortait. De la barre, Brown entendit la voix calme de Jim. « Vous avez la route libre. » « Vous ferez bien de vous laisser dériver tant que durera ce brouillard, qui va d'ailleurs bientôt se lever. »« Oui, nous verrons bientôt clair, » répondit Brown. Les 30 ou 40 hommes qui restaient, l'arme au bras, en dehors de la palissade, retenaient leur souffle. Le bugie, propriétaire du prao, que j'avais vu sur la véranda de Stein, faisait partie de ce groupe. Il me raconta que la chaloupe, en rasant de tout près la pointe basse, avait un instant paru grossir démesurément et dominer l'éperon comme une montagne. « Si vous jugez que cela vaille la peine d'attendre un jour sur la côte, » cria Jim, « je tâcherai de vous envoyer quelque chose, un bœuf, des ignames, ce que je pourrai. » L'ombre avançait toujours. « Oui, entendu, » fit dans le brouillard une voix assourdie et sans timbre. Aucun des assistants attentifs ne saisit le sens de ces paroles, et Brown disparut, avec ses hommes et sa chaloupe, comme des spectres évanouis sans le moindre bruit. Voilà comment, invisible dans le brouillard, l'aventurier quitta Patousan, avec Cornélius assis dans la chambre d'arrière de sa chaloupe. « On vous enverra peut-être un petit bœuf, » ricana le métis. « Oh oui, un bœuf, des ignames, vous les aurez, puisqu'il vous l'a promis. Il dit toujours la vérité. Il m'a volé tout ce que je possédais. Il faut croire que vous préférez un bœuf maigre au sac de nombreuses maisons. Je vous conseille de tenir votre langue, si vous ne voulez pas vous faire flanquer par-dessus bord dans ce sacré brouillard, » menaça Brown. La chaloupe paraissait immobile. On ne voyait rien, pas même la rivière le long du bateau. Mais on sentait la poussière de l'eau courir et se condenser en ruisselant sur les barbes et les visages. C'était lugubre, me disait Brown. Chacun des aventuriers eût pu se croire seul dans une barque à la dérive, avec la hantise et le soupçon à peine perceptible de fantômes soupirant et murmurant autour de lui. Me flanquer par-dessus bord, ah vraiment! Grommela Cornélius d'un ton hargneux. Au moins je saurais me retrouver. J'ai vécu tant d'années ici. Pas assez pour vous diriger dans un brouillard pareil, rétorqua Brown, en se renversant en arrière et en balançant son bras au-dessus du gouvernail inutile. Si, bien assez, grogna Cornélius. Très précieux, commenta Brown. Faut-il conclure que vous sauriez retrouver à tâtons comme ceci, le bras détourné dont vous m'avez parlé? Cornélius fit un signe affirmatif. Êtes-vous trop là pour ramer? Reprit-il, après un silence. Non, par Dieu! Cria brusquement le capitaine. Allons, les avirons à l'eau, vous autres. On entendit dans le brouillard un grand remue-ménage qui se résolut peu à peu en un grincement régulier de rames invisibles contre d'invisibles tollets. Rien n'était changé cependant, et sans l'éclaboussement régulier des rames, on eût pu se croire, me disait Brown, dans une nacelle de ballon, allée en plein brouillard. À partir de ce moment, Cornélius n'ouvrit plus la bouche que pour supplier, d'une voix gémissante, que l'on écopât sa pirogue, tirée en remorque. Peu à peu, le brouillard s'éclaircissait et se faisait plus lumineux devant la chaloupe. À sa gauche, Brown vit une ombre que l'on eût pu prendre pour le dos de la nuit en fuite. Tout à coup, une grosse branche feuillue passa au-dessus de sa tête, cependant que les rameaux ruisselants et immobiles se relevaient légèrement près du bord de l'embarcation. Sans un mot, Cornélius lui prit la barre des mains. Chapitre 44. Je crois qu'ils n'échangèrent plus une parole. La chaloupe était entrée dans un étroit chenal latéral, où les palettes des rames la poussaient en s'implantant dans les berges croulantes, et où pesait une ombre lugubre, comme si, au-dessus du brouillard qui remplissait ce bras de rivière depuis ses profondeurs jusqu'aux cimes des arbres, de grandes ailes eussent été déployées. Des branches en surplomb, de grosses gouttes tombaient à travers le morne brouillard. À un murmure de Cornélius, Brown fit charger les fusils. « Je vais vous donner le plaisir de vous acquitter envers ces gens-là avant de filer. Tas d'estropiés que vous êtes, » dit-il à sa bande. « Prenez garde de ne pas gâcher l'occasion, espèce de chien. » Des grognements sourds accueillirent ces paroles. Cornélius larmoyait et s'inquiétait fort du sort de son canot. Cependant, Tamitam avait atteint le terme de sa course. Le brouillard l'avait un peu retardé, mais il avait ramé avec vigueur, en restant au contact de la rive sud. Peu à peu, le jour parut, comme un reflet dans un globe de verre dépoli. Les rives formaient de chaque côté du fleuve une tache noire, où l'on décelait des soupçons de piliers, et, très haut dans le ciel, des ombres de branches tordues. La brume restait très dense au ras de l'eau, mais on montait bonne garde au camp, car dès que Tamitam s'en approcha, deux silhouettes d'hommes émergèrent de la vapeur blanche, et des voix vigoureuses le hélèrent. Il répondit, et un canot vint aborder sa pirogue. Il échangea des nouvelles avec les guetteurs, tout allait bien. Le temps d'épreuve était passé. Les hommes du canot lâchèrent le bord de sa pirogue et se perdirent immédiatement dans la brume. Tamitam poursuivit sa route, jusqu'à ce qu'il entendit des voix venir à lui sur l'eau, et vit, à travers le brouillard qui commençait à se soulever en tourbillon, la lueur de feux allumés sur une grève sablonneuse, encadrée par des fourrés et une haute futaie. Là encore, on était aux aguets, car on l'interpella. Il cria son nom en lançant de deux coups de pagaie sa pirogue sur la rive. C'était un camp important. Les hommes allongés par petits groupes échangeaient des murmures assourdis de causeries matinales. De minces filets de fumée ondulaient lentement sous le brouillard blanc. On avait bâti pour les chefs de petits abris élevés au-dessus du sol. Les fusils étaient disposés en faisceaux et fichés un à un dans le sable. De grandes lances se dressaient près des feux. Avec un air d'importance, Tamitam demanda à être conduit près de Dain Waris. Il trouva l'ami de son seigneur blanc couché sur un lit surélevé de bambou, abrité par un berceau de bâtons couvert de nattes. Dain Waris était éveillé, et un feu clair flambait devant son abri, qui prenait un air de temple primitif. Le fils unique de Nakoda, Doramin, répondit avec cordialité au salut de Tamitam. Le serviteur commença par lui tendre l'anneau, gage de la sincérité de son message. Dain Waris s'appuya sur un coude et lui ordonna de parler pour dire ses nouvelles. Commençant par la formule consacrée, « Bonne nouvelle », Tamitam répéta les paroles mêmes de Jim. Parti sur le consentement de tous les chefs, les Blancs devaient trouver libre passage sur la rivière. Pour répondre à quelques questions, Tamitam résuma alors la discussion du dernier conseil. Dain Waris l'écouta attentivement jusqu'au bout, en jouant avec l'anneau qu'il finit par glisser à l'index de sa main droite. Après avoir appris tout ce que Tamitam avait à dire, il le congédia en lui faisant donner nourriture et abri. Des ordres de repli pour l'après-midi furent immédiatement lancés. Après quoi, Dain Waris se recoucha, les yeux ouverts, tandis que ses propres serviteurs préparaient son repas près d'un grand feu, en bavardant avec Tamitam pour savoir de lui les dernières nouvelles de la ville. Le soleil dévorait la brume. On menait bonne garde sur le bras principal du fleuve, où l'on s'attendait, d'un moment à l'autre, à voir déboucher l'embarcation des Blancs. C'est alors que Brown se vengea d'un monde qui, après 20 ans de folles et méprisantes brimades, lui refusait le tribut d'un succès de vulgaire banditisme. Ce fut un acte de férocité froide, dont, sur son lit de mort, le souvenir le consolait comme un indomptable défi. Il fit furtivement débarquer ses hommes sur le côté de l'île opposé au camp des Bugis, et les mena vers l'autre rive. Après une lutte brève, mais silencieuse, Cornelius, qui avait tenté de s'esquiver au moment du débarquement, se résigna à diriger la petite troupe à travers les fourrés les moins épais de la brousse. Brown tenait les mains décharnées du métis derrière son dos, dans un seul de ses gros poings, et activait de temps en temps son allure d'une bourrade brutale. Cornelius restait muet comme une carpe, abject, mais ferme dans un dessein dont il entrevoyait confusément la réalisation prochaine. Vers la lisière de la forêt, les hommes de Brown se déployèrent dans le fourré et attendirent. Le camp s'étalait tout entier sous leurs yeux, et personne ne regardait de leur côté. Nul ne pouvait rêver que les Blancs connussent l'étroit chenal qui passait derrière l'île. Lorsqu'il jugea le moment venu, Brown cria « Allez-y !» et 14 coups partirent comme un seul. Telle fut la surprise, me racontait Tamitam, qu'en dehors de ceux qui tombèrent morts ou blessés, aucun des Bugis ne fit un mouvement pendant un temps appréciable après la première décharge. Mais un guerrier cria, et ce cri parut déchaîné de toutes les gorges, un hurlement de stupeur et d'épouvante. Une panique folle chassa tous ces hommes et en fit une masse hésitante. Ils couraient çà et là sur la berge, comme un troupeau apeuré par le flot. Quelques indigènes sautèrent à l'eau, mais la plupart ne s'y précipitèrent qu'après la dernière décharge. 3 fois les bandits tirèrent dans le tas, pendant que seul en vue, Brown sacrait et hurlait « Visez bas, visez bas !» Tamitam m'affirma avoir compris dès la première salve ce qui s'était passé. Bien que non touché, il se laissa tomber à terre et fit le mort, en gardant pourtant les yeux ouverts. Bondissant de sa couche au premier coup de feu, Dain Waris sortit sur le rivage découvert, juste à temps pour recevoir en plein front une balle de la seconde décharge. Tamitam le vit écarter les bras tout grands avant de tomber. C'est alors, m'a-t-il dit, alors seulement qu'il se sentit accablé par une grande terreur. Toujours invisible, les Blancs se retirèrent comme ils étaient venus. Voilà comment Brown régla ses comptes avec la fortune adverse. noter que dans cet affreux attentat, on retrouve une certaine supériorité, comme celle de l'homme qui met au service du droit, au sens abstrait du mot, ses passions communes. Il ne s'agit pas d'un massacre banal et perfide. C'était une leçon, une rétribution, l'explosion de quelque obscur et terrible attribut de notre nature, moins profondément enfoui, je le crains, que nous aimerions à le croire. Après cela, les blancs s'éclipsent sans que Tamitam ait pu les voir, et semblent s'évanouir pour toujours aux yeux des hommes. La goélette même disparaît, comme disparaissent tant de choses volées. Mais on raconte qu'un mois plus tard, une chaloupe blanche fut recueillie dans l'océan Indien par un vapeur de commerce. Deux squelettes au visage jaune parcheminé et aux yeux vitreux reconnaissaient l'autorité d'un troisième spectre qui déclara se nommer Brown. Sa goélette, qui se dirigeait, d'après ses dires, vers le sud avec une cargaison de sucre de Java, avait subi une terrible avarie et sombré sous ses pieds. Lui et ses compagnons étaient les seuls survivants des six hommes d'équipage. Les deux marins moururent à bord du vapeur qui les avait recueillis. Brown vécut pour me permettre de le voir, mais je puis affirmer qu'il avait joué son rôle jusqu'au bout. Les aventuriers avaient oublié dans leur fuite de couper la remorque du canot de Cornelius. Quant à Cornelius lui-même, Brown l'avait laissé filer au début de la fusillade avec un coup de pied en guise de bénédiction d'adieu. En se relevant d'entre les morts, Tamitam aperçut, au milieu des cadavres et des feux expirants, le Nazaréen qui courait sur le rivage en poussant de petits cris. Il se rua tout à coup vers la rivière et tenta, au prix d'efforts frénétiques, de pousser à l'eau l'une des pirogues bugies. Puis, jusqu'à ce qu'il m'ait vu, continuait Tamitam, il resta debout, les yeux fixés sur la lourde barque, en se grattant la tête. Qu'est-il advenu de lui ? Demandai-je. Tamitam me regarda en face et fit un geste expressif du bras droit. « Je l'ai frappé deux fois, Tuan, » dit-il. En me voyant approcher, il se jeta violemment à terre et se débattit avec un grand cri. Il gloussait comme une poule effarée, mais dès qu'il sentit la pointe de ma lance, il se tint coi et me regarda fixement pendant que la vie lui sortait des yeux. Après cela, Tamitam ne s'attardait point. Il comprenait l'urgente nécessité d'arriver le premier au fort avec les terribles nouvelles. Nombreux étaient évidemment les survivants de la troupe de Dane Waris, mais dans leur folle panique, certains avaient traversé le fleuve à la nage, tandis que d'autres s'enfonçaient dans la brousse. Le fait est qu'ils ignoraient réellement d'où venait le coup. Ils ne savaient pas si d'autres bandits blancs n'allaient pas survenir ou n'avaient pas déjà pris possession de tout le pays. Il se croyait victime d'une vaste trahison et voué à une destruction fatale. Certains groupes ne rallièrent pas la ville avant 3 jours pleins. Quelques-uns pourtant reprirent aussitôt le chemin de Patousan, entre autres les rameurs de l'un des canots préposés ce matin-là à la surveillance du fleuve, qui s'étaient trouvés en vue du camp au moment de l'attaque. Il est vrai qu'ils commencèrent par sauter par-dessus bord pour gagner à la nage la rive opposée, mais revenus un peu plus tard à leur pirogue, ils remontèrent le courant avec un cœur plein de terreur. Tamitam avait une heure d'avance sur eux. Chapitre 45. Lorsque Tamitam, ramant impétueusement, arriva en vue de la ville, les femmes pressées sur les plateformes des maisons attendaient le retour de la flottille de Dane Waris. La ville avait un air de fête. Ça et là, des hommes qui portaient encore à la main lance ou fusil s'avançaient en groupe ou se tenaient sur la berge. Les boutiques de Chinois s'étaient ouvertes de bonne heure, mais la place du marché était déserte. Une sentinelle, postée encore au coin du fort, aperçut Tamitam et signala son arrivée aux défenseurs de l'enceinte. La porte était large ouverte. Tamitam bondit sur la berge et se précipita. La première personne qu'il aperçut fut la jeune femme, qui sortait de la maison. Échevelée, haletant, les lèvres tremblantes, et les yeux égarés, Tamitam resta un instant muet devant elle, comme si un sortilège eût soudain scellé sa bouche. Puis il éclata tout à coup. « Ils ont tué Dane Waris et nombre d'autres guerriers. » Elle joignit les mains, et ses premiers mots furent « Ferme les portes. » La majorité de la garnison avait regagné ses foyers, et Tam Tam expédia vivement les hommes qui restaient pour leur tour de garde. Bijou se tenait debout au milieu de la cour, tandis que les autres couraient à droite et à gauche. « Doramine !» lança-t-elle avec un accent de détresse, au moment où Tam Tam passait devant elle. En repassant, il répondit vivement à la pensée de la jeune femme. « Oui, mais nous détenons toute la poudre de Patouzan. » Elle lui saisit le bras, et montrant la maison, « Va l'appeler !» murmura-t-elle en tremblant. Tam Tam monta l'escalier au galop. Son maître dormait. « C'est moi, Tam Tam, avec des nouvelles qui ne peuvent attendre !» cria-t-il du seuil de la porte. Il vit Jim se retourner sur l'oreiller en ouvrant les yeux, et lança tout de suite « Jour de malheur, Tuan, jour maudit !» Jim se redressa sur le coude pour l'écouter, comme avait fait Dane Warris. Alors Tam Tam commença son récit, en s'efforçant de mettre de l'ordre dans son histoire. Il appelait Dane Warris Panglina, et disait « Le Panglina a alors donné l'ordre au chef de ses bateliers de donner à manger à Tam Tam. » Lorsque son maître mit pied à terre, il le regarda avec un visage si décomposé que les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. « Achève !» cria Jim. « Il est mort ?»« Longue vie à vous !» répondit Tam Tam. « C'est une affreuse trahison !» Il s'était levé au premier coup de feu, et il est tombé. Jim alla vers la fenêtre, et ouvrit le volet d'un coup de poing. La chambre s'éclaira. Il se mit alors à donner à son serviteur des ordres d'une voix calme mais rapide, pour faire assembler et lancer à la poursuite des fugitifs une flottille de canots. Il allait prévenir tel et tel chef, dépêcher des messages. Tout en parlant, le jeune homme s'était assis sur le bord du lit et se penchait pour lacer ses bottes à la hâte. Mais relevant soudain son visage rougi, « Pourquoi restes-tu là ? » s'écria-t-il. « Ne perds pas de temps. » Tam Tam ne bougeait pas. « Pardonne-moi, Tuan, mais, se mit-il à balbutier. « Quoi donc ? » cria son maître à voix haute et avec un regard terrible en se penchant les deux mains crispées au bord du lit. « Il n'est pas prudent pour ton serviteur de se montrer parmi le peuple, » répondit Tam Tam, après un moment d'hésitation. Alors Jim comprit. Il avait renoncé à un monde pour échapper aux conséquences d'un petit saut impulsif, et maintenant l'autre monde, l'œuvre de ses propres mains, tombait en ruine sur sa tête. Il n'était pas prudent pour son serviteur de sortir au milieu de son peuple à lui. Je crois qu'à cette minute précise, il décida de jeter au désastre le seul défi qui lui parut possible. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il sortit sans un mot de sa chambre et s'assit à la longue table où il avait pris l'habitude de régler les affaires de son monde et de proclamer chaque jour la vérité qui habitait certainement son cœur. Les sombres puissances ne lui voleraient pas deux fois sa paix. Tam Tam suggéra avec déférence l'idée de préparatifs de défense. La femme que Jim aimait s'approcha de lui et lui parla. Mais il fit un signe de la main, et elle fut consternée par la muette supplication de ce geste qui implorait le silence. Elle sortit sur la véranda et s'assit au seuil comme pour protéger de son corps son ami contre les dangers du dehors. Quelles pensées traversèrent la tête de Jim? Quel souvenir, qui pourrait le dire? Tout s'était effondré, et lui qui s'était un jour montré infidèle à l'attente des hommes avait à nouveau perdu leur confiance. C'est alors, je le suppose, qu'il tenta d'écrire à quelqu'un, mais il y renonça. La solitude se refermait sur lui. C'est en son seul nom que des hommes lui avaient confié leur vie, et pourtant, comme il avait dit, rien ne pourrait jamais les amener à comprendre. Au dehors, on ne l'entendait pas faire le moindre bruit. Vers le soir, il se montra à la porte et appela Tam Tam. « Eh bien, demanda-t-il. « Il y a beaucoup de pleurs et de colère aussi, » répondit le malais. Jim leva les yeux sur lui. « Ah, tu sais, » murmura-t-il. « Oui, Tuan, » répondit Tam Tam. « Ton serviteur sait. et les portes sont fermées. Il faudra combattre.
Combattre? Pourquoi cela? Demanda Jim.
Pour nos vies.
Je n'ai plus de vie, fit-il.
Tamitam entendit à la porte un cri de la jeune femme.
Qui sait? Fit-il.
L'audace et la ruse peuvent encore assurer notre salut. Il y a beaucoup de terreur aussi dans le cœur des hommes.
Il sortit, en pensant vaguement au bateau et à la mer ouverte, et en laissant ensemble Jim et la jeune femme.
Je n'ai pas le cœur de vous narrer ici ce qu'elle m'a laissé entrevoir de cette lutte menée une heure ou plus contre lui pour la possession de son bonheur. Ce que Jim pouvait garder d'espoir, ce qu'il attendait, ce qu'il imaginait est impossible à dire. Il resta inflexible, et dans la solitude de plus en plus profonde de son obstination, son âme semblait s'élever au-dessus des ruines de son existence. Elle lui criait à l'oreille « Il faut combattre !» Elle ne pouvait pas comprendre. Il n'y avait rien à gagner en combattant. C'est d'une autre façon qu'il allait montrer sa puissance et vaincre sa fatale destinée. Il s'avança dans la cour, et derrière lui, les cheveux épars, le visage hagard, haletante, la jeune femme sortit en trébuchant et s'appuya au chambranle de l'entrée. « Ouvrez les portes » ordonna-t-il. Après quoi, se tournant vers ceux de ses hommes qui étaient restés dans la cour, il leur donna la permission de rentrer chez eux.
« Pour combien de temps, Tuan ?» demanda timidement l'un d'eux.
« Pour toujours, » répondit-il d'un ton morne. Un grand silence était tombé sur la ville, après l'explosion de pleurs et de lamentations qui avait passé sur le fleuve, comme une rafale de vent sortie d'un abîme ouvert de douleur. Mais de sourdes rumeurs volaient, en remplissant les cœurs de consternation et d'horribles doutes. Les bandits allaient revenir, en ramenant une foule de leurs acolytes sur un grand navire, et il n'y aurait plus de refuge pour personne dans le pays. Une impression d'insécurité totale envahissait les esprits, comme au cours d'un tremblement de terre, et les hommes se chuchotaient leurs soupçons en se regardant, comme s'ils se fussent trouvés en face de quelque effroyable présage. Le soleil s'abaissait au-dessus des forêts, lorsqu'on rapporta au kampong de Doramine le corps de Dane Waris. Quatre hommes portaient le cadavre, pieusement recouvert d'un linceul blanc que la vieille mère avait envoyé à la porte pour le retour de son fils. On le posa au pied de Doramine, et le vieillard resta longtemps immobile, les yeux baissés, une main sur chaque genou. Les branches des palmiers se balançaient mollement, et les feuilles des arbres fruitiers s'agitaient au-dessus de sa tête. Armés de pied en cap, les hommes de sa tribu étaient là jusqu'au dernier, quand le vieux Nakoda finit par lever les yeux. Son regard passa lentement sur la foule, comme s'il eût cherché un visage absent. Puis son menton retomba contre sa poitrine. La rumeur d'une nombreuse assemblée se mêlait au frémissement léger de la verdure. Le Malais qui avait conduit à Samarang Tabitham et la jeune femme assistait à la scène. Il n'était pas aussi furieux que bien d'autres, m'expliqua-t-il, mais pénétré de stupeur et d'épouvante devant la soudaineté du destin des hommes, suspendu sur leur tête comme un nuage gros de tonnerre. Lorsque le corps de Dane Waris fut découvert, sur un signe de Doramine, celui qu'on appelait souvent l'ami du seigneur blanc apparut inchangé, les paupières entr'ouvertes, comme s'il allait s'éveiller. Doramine se pencha encore un peu, comme un homme qui cherche un objet tombé à ses pieds. Ses yeux scrutaient le cadavre pour y trouver la blessure, peut-être. Elle était très petite, en plein front. Nul mot ne fut prononcé lorsqu'un des assistants s'accroupit pour ôter de la main froide et raide l'anneau d'argent qu'il tendit en silence à Doramine. Mais un murmure d'effroi et d'horreur courut dans la foule à la vue de ce symbole familier. Le vieux Nakoda le regarda et poussa tout à coup un grand cri féroce, un hurlement de douleur et de furie, puissant comme le beuglement d'un taureau blessé, qui remplit d'épouvante les cœurs de tous les guerriers, tant il exprimait clairement, sans parole, de colère et de peine. Un lourd silence plana un instant, pendant que quatre hommes emportaient le corps à l'écart.
Ils le déposèrent sous un arbre, et aussitôt, avec un grand cri prolongé, toutes les femmes de la maison se mirent à gémir ensemble. Elles se lamentaient avec des voix aiguës. Le soleil se couchait, et, dans les intervalles des lamentations forcenées, chantaient seules les voix monotones de deux vieillards qui psalmodiaient le Coran. À cette heure-là, Jim, appuyé sur un affût de canon, contemplait le fleuve en tournant le dos à sa demeure. Du seuil de la porte, la jeune femme, haletante comme si elle eût dû s'arrêter dans un furieux élan, le regardait à travers la cour. Debout, à quelques pas de son maître, Tam Tam attendait patiemment ce qui allait arriver. Tout à coup, Jim, qui semblait perdu dans un rêve paisible, se tourna vers lui en disant « Il est temps d'en finir. » Tuan, fit Tam Tam en s'avançant allègrement. Il ne voyait pas ce que son maître voulait dire. Mais dès que Jim fit un mouvement, Bijou quitta sa place pour traverser la cour. Aucun des familiers de la maison n'était alors en vue. La jeune femme chancelait légèrement, et à mi-chemin, elle appela Jim, qui paraissait à nouveau plongé dans la contemplation du fleuve. Il se retourna en s'adossant au canon. « Veux-tu te battre ? » cria-t-elle. « Il n'y a pas de quoi se battre, » répondit-il. « Rien n'est perdu. » Et il fit un pas vers elle. « Veux-tu fuir ? » cria-t-elle de nouveau. « Il n'y a pas de fuite possible, » répondit-il, en s'arrêtant court, cependant que la jeune femme, immobile aussi et silencieuse, le dévorait des yeux. « Alors tu vas aller là-bas, » fit-elle lentement. Il baissa la tête. « Ah ! » s'écria-t-elle, avec un regard oblique, « tu es un menteur ou un fou. Te souviens-tu de la nuit où je te suppliais de me quitter et où tu me répondais que tu ne le pouvais pas, que c'était chose impossible ? Impossible. Te souviens-tu d'avoir affirmé que tu ne me quitterais jamais ? Pourquoi ? Je ne te demandais pas de promesse. C'est toi qui m'as promis, sans que j'exige rien. Rappelle-toi. Cela suffit, ma pauvre fille, soupira-t-il. Je ne vaux pas la peine d'être gardé. Tam Tam m'a raconté que pendant cette conversation, sa maîtresse fut prise d'un rire violent et insensé, comme un être en proie à l'Esprit de Dieu. Son maître se prit la tête dans les mains. Il portait ses vêtements ordinaires, mais n'avait pas de chapeau sur la tête. Bijou cessa brusquement de rire. « Pour la dernière fois, menaça-t-elle, veux-tu te défendre ?»« Rien ne saurait me toucher, » affirma-t-il, dans un ressaut suprême de superbe égoïsme. Tam Tam vit la jeune femme se pencher en avant, ouvrir les bras et se précipiter vers Jim. Elle se jeta sur sa poitrine et lui étreignit le cou. « Ah, je vais te retenir comme cela » cria-t-elle. « Tu es à moi !» Elle sanglotait sur son épaule. Immense et rouge sang au-dessus de Patouzan, le soleil semblait un flot coulant d'une veine ouverte. Un énorme soleil pourpre se nichait entre les cimes des arbres et la forêt prenait au-dessous de lui une teinte sombre et sinistre. L'aspect du ciel ce soir-là était, à croire Tam Tam, redoutable et menaçant de colère. Je le crois volontiers, sachant que ce même jour, un cyclone était passé à moins de 60 milles de la côte, sans déterminer d'ailleurs dans le pays autre chose qu'un léger mouvement de l'atmosphère. Tout à coup, Tam Tam vit Jim saisir le bras de sa compagne, en s'efforçant de lui dénouer les mains. Elle se pendait à son cou, la tête renversée en arrière, et ses cheveux touchaient le sol. « Ici !» appela Jim, et le malais l'aida à soulever le corps de la pauvre fille. Il fut difficile de délier ses doigts. Penché sur elle, Jim regarda profondément son visage et prit tout à coup son élan vers l'embarcadère. Tam Tam le suivit, mais il vit en tournant la tête que la jeune femme s'était redressée. Elle fit quelques pas derrière eux, puis tomba lourdement sur les genoux. « Tuan, Tuan !» appela Tam Tam, « retourne-toi !» Mais Jim avait déjà sauté dans un canot et s'y tenait tout droit, pagaie en main. Il ne jeta pas un regard en arrière. Le serviteur eut juste le temps de grimper derrière lui dans la pirogue qui flottait déjà. À la porte de l'enceinte, Bijou se tenait à genoux, les mains jointes. Elle resta quelque temps dans cette attitude de suppliante avant de bondir sur ses pieds.
« Tu n'es qu'un imposteur !» cria-t-elle à Jim.
« Pardonne-moi » supplia-t-il.
« Jamais, jamais » répondit-elle.
Jugeant inconvenant de rester assis pendant que son maître ramait, Tam Tam lui prit la pagaie des mains. Quand ils touchèrent l'autre rive, Jim lui défendit de l'accompagner plus avant. Mais le fidèle serviteur le suivit pourtant de loin et gravit derrière lui la pente qui menait au kampong de Doramine. Il commençait à faire nuit. Des torches brillaient çà et là. Les gens que Jim croisait paraissaient frappés d'épouvante et s'effaçaient vivement pour le laisser passer. Les gémissements des femmes descendaient sur la pente. La cour était pleine de bugies en armes avec leurs serviteurs et d'habitants de la ville. Je ne sais à quel but répondait réellement une telle assemblée. Était-ce préparatif de guerre ou de vengeance, ou disposition prise pour repousser une invasion menaçante? Bien des jours passèrent sur le pays avant que les gens cessassent de rester sur le qui-vive, tremblant et guettant le retour des Blancs aux longues barbes et aux vêtements en loques, dont les relations exactes avec leurs seigneurs blancs demeurèrent toujours mystérieuses à leurs yeux. Même pour ces esprits simples, le pauvre Jim reste dans l'ombre d'un nuage. Seul, immense, désolé, ses deux pistolets de pierre sur les genoux, Doramine était assis dans son fauteuil en face de la morne assemblée. Quand Jim parut, les exclamations retentirent. Toutes les têtes se tournèrent d'un seul coup. La foule s'ouvrit à droite et à gauche, et il s'avança le long d'un chemin de regard détourné. Des murmures, des chuchotements l'accompagnaient.
C'est lui qui a tramé tout le mal. Il possède un charme.
Il entendait peut-être. Quand il parut dans le cercle de lumière des torches, les lamentations des femmes cessèrent subitement. Doramine ne leva pas la tête, et Jim resta un instant silencieux devant lui. Puis, regardant à sa gauche, il marcha de ce côté à pas mesurés. La mère de Denwaris était prosternée à la tête du cadavre, et ses cheveux gris épars couvraient son visage. Jim s'avança lentement, regarda le corps de son ami, en soulevant le linceul, puis le laissa retomber sans un mot. Il revint doucement vers Doramine.
« il est venu !»
Ce murmure qui courait sur les lèvres des assistants accompagnait ses pas.
« Il a tout pris sur sa tête !» lança une voix très haute.
Jim entendit ces mots et se retourna vers la foule. « Oui, sur ma tête. » Quelques-uns des hommes reculèrent. Jim attendit un instant devant Doramine, puis dit doucement « Je suis venu dans l'affliction. » Il attendit de nouveau « Je suis venu tout près et sans armes, » reprit-il. Le pesant vieillard pencha son gros front comme un bœuf sous le joug, et fit un effort pour se lever, en saisissant les pistolets à pierre posés sur ses genoux. De sa gorge sortaient des sons mouillés, étranglés, inhumains, et ses deux serviteurs le soutenaient par derrière. On remarqua que l'anneau qu'il avait laissé choir sur son giron tomba et roula au pied du blanc. Le pauvre Jim abaissa les yeux sur le talisman qui lui avait ouvert la porte de la gloire, de l'amour, du succès, derrière la barrière des forêts frangées d'écume blanche, à l'intérieur de cette côte qui apparaît sous le soleil couchant, comme le rempart même de la nuit. Doramine, luttant pour se tenir debout, formait avec ses deux serviteurs un groupe mobile et chancelant. Ses petits yeux avaient une expression de rage et de folle douleur. Les assistants observèrent une lueur féroce dans son regard, et tandis que Jim se tenait debout devant lui, raidi, tête nue, sous la lumière des torches, et le regardait droit dans les yeux, il s'agrippa lourdement du bras gauche au cou ployé d'un des jeunes gens, et levant délibérément la main droite, visa en pleine poitrine l'ami de son fils. La foule qui s'était écartée derrière Jim, en voyant le vieillard lever la main, se rua tumultueusement en avant, après le coup de feu. On raconte que le blanc lança à droite et à gauche, sur tous ses visages, un regard fier et résolu. Puis, les mains sur la bouche, Il tomba en avant, mort. Et c'est fini. Il s'en va dans l'ombre d'un nuage, le cœur impénétrable, oublié, impardonné et prodigieusement romanesque. Les plus folles visions de ses années d'enfance n'auraient pu susciter pour lui mirage plus séduisant d'un prodigieux succès. Car il est bien possible qu'à la brève seconde de ce dernier regard d'intrépide orgueil, il ait aperçu le visage de cette chance qui se tenait comme une fiancée d'Orient, voilée à son côté. Au moins le voyons-nous, obscur conquérant de gloire, s'arracher aux bras d'un amour jaloux pour répondre au premier signe, au premier appel de son égoïsme exalté. Il se sépare d'une femme vivante pour célébrer ses impitoyables noces avec un obscur idéal. Est-il satisfait, entièrement satisfait maintenant? Je me le demande. Nous devrions le savoir. C'est l'un de nous. Et comme un fantôme évoqué, ne me suis-je pas dressé un jour pour répondre de son éternelle constance? Avais-je tort, après tout? Aujourd'hui qu'il n'est plus, il y a des jours où la réalité de son existence m'accable d'un poids formidable et écrasant. Et pourtant, sur mon âme, il y a d'autres jours aussi où il disparaît à mes yeux comme un esprit désincarné, égaré parmi les passions de cette terre, et tout prêt à répondre fidèlement à l'appel des ombres de son propre monde. Qui sait? Il est parti, le cœur impénétrable, et la pauvre fille qu'il a laissée derrière lui mène, dans la maison de Stein, une sorte d'existence inerte et muette. Stein a beaucoup vieilli depuis quelque temps. Il s'en rend compte lui-même et déclare souvent qu'il se prépare à quitter tout cela, qu'il se prépare à quitter, et il fait un geste attristé de la main vers ses papillons.